Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. L'épreuve de la maladie, l'épreuve justement de l'épée de Damoclès. Quand on a annoncé à ma femme d'aujourd'hui qu'il lui restait uniquement 2-3 ans à vivre, ça c'était en 2002, on est en 2026 et elle est là pour témoigner de tout ce que cette épreuve a pu lui apprendre sur elle-même. On y va pour les deux.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Behija Gouimi, bonjour.
Bonjour,
la Yasmine. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui?
Très bien, très bien. Je vis encore et je vis pleinement. Je vis au jour le jour, voilà.
Alors, on va découvrir tout ça justement. Alors, pendant très très longtemps, tu étais enseignante et uniquement enseignante. La vie a fait que tu es devenue également présidente fondatrice de l'association ML et patiente partenaire en cancérologie ainsi qu'écrivaine. L'association PAM-ML, c'est l'association des malades atteints de leucémie Marrakech, représentante de la région Afrique et Moyen-Orient au réseau CML Advocates Network. Et ça, c'est, on va dire, une surprise de la vie qui n'était pas du tout prévue.
Oui, exactement, exactement. Donc, merci pour l'invitation, merci pour l'intérêt. Pour mon parcours, ma vie a commencé il y a 56 ans exactement. Donc, je suis originaire de Tessa, donc j'ai fait mes études et j'ai enseigné pendant plus de 31 ans. Donc, 31 ans d'apprentissage, d'amour pour le métier, de l'enseignement et bien sûr où je me plaisais avec mes étudiants. Donc, alhamdoulilah, un parcours, je suis fière de le faire, je suis fière de mes étudiants qui sont toujours en contact avec moi et que j'admire beaucoup quand ils réalisent des choses. Donc, la vie a voulu, les Yasmine, qu'en 2002, alors que j'étais enceinte de mon troisième enfant, que je découvre que j'ai une splénomégalie, que j'ai une hyperleucocytose, une hyperplaquettose, et tout ça veut dire un chromosome Philadelphie positif qui veut dire une LMC. C'est un joli nom à dire, mais c'est un cancer de sang. C'est une leucémie myéloïde chronique. Et je découvre que je n'ai que 3 à 4 ans à vivre. Donc, c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque au Maroc qui était disponible en 2002. Donc,
alors, si je peux me permettre, donc, faut que déjà, on s'arrête. Découvrir un cancer avec une grossesse. Ça, comment tu l'as vécu?
C'était dur. Hein. Franchement, c'est-à-dire enceinte avec un bébé et puis la maman, elle pense toujours aux enfants. Donc, je me suis dit, la douleur était vraiment, la souffrance était doublée, quoi. Ouais. Je devais penser à moi, déjà, à mon état de santé, à ce cancer qui a péri, une nouvelle maladie, une nouvelle pathologie que je n'ai jamais entendue, c'est-à-dire dans mon entourage, parler d'une LMC ou bien d'une leucémie myéloïde chronique, etc. Et puis, mon bébé qui vient de naître, normalement, ça doit être censé être un heureux événement qui est là maintenant. On me dit que vous ne serez pas là pour vivre ses joies, pour vivre quand il aura son baccalauréat, quand il va se marier, etc. C'était pénible. Donc, c'était pas évident. Donc, et puis, cette peur, sincèrement, c'est-à-dire à l'intérieur, qui me disait que lui aussi, il va avoir la leucémie. Donc, j'étais préoccupée par ça plus que par mon état personnel. Donc, quand j'ai entendu ça, donc, je me suis effondrée. Hein, donc, je suis passée par tout le processus de deuil, à savoir le déni, je disais que peut-être ils ont fait une erreur dans mes années, c'est pas possible, moi qui prenais tellement soin de moi, mes vaccins, c'est ma santé, le petit pépin, je consulte, etc. Donc c'était la peur, c'était le stress, c'était la solitude, c'était la solitude au milieu de la foule. Et ça, c'est pénible. Entouré de tout le monde, des collègues, des amis, des voisins, de la famille, de mon mari, et qui m'a beaucoup soutenu en 2002, je dis, personne ne parlait de cancer à l'époque, Mais je sentais cette solitude qui m'étouffait, que je n'arrivais pas à expliquer. C'est-à-dire, au début, c'était ça le processus de deuil que j'ai fait. Et puis, c'était la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et cette tristesse profonde, c'est comme si on sentait une injustice.
Surtout quand on te dit
Mais
qu'il n'y a pas de traitement, en fait.
il n'y a pas de traitement. Et on me dit, un médecin femme que je lui ai demandé comme ça dans le couloir de l'hôpital. Moi, j'ai une LMC. Combien d'années je vais vivre? Elle m'a dit 4 ans comme ça dans le couloir et elle monte dans l'ascenseur. Et ça m'a tellement blessée. C'est comme si quelqu'un qui a pris un couteau et a décidé de finir ma vie. Et puis je commençais à penser et à poser toutes ces questions. Qui va élever mes enfants? Est-ce que mon mari va se marier, va prendre une autre qui va me remplacer, va prendre ma place?
Tu lui en as parlé
Tout...
de ça? Vous en avez parlé?
Pardon?
Tu lui en parlais de ça? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu vas prendre quelqu'un d'autre pour s'occuper des
Oui,
enfants?
je lui ai même dit, une fois, je lui ai dit, écoute, je sais que tu es encore jeune, les enfants, si je meurs, tu te maries, hein, je te permets de te marier. Mais je me dis, mais qu'est-ce que tu dis là? On n'est pas là, tu es encore vivante, pourquoi tu peux pas me dire ça comme ça? Mais il fallait que je le dise, c'est comme si il fallait que
Oui.
je prenne revanche pour dire que voilà, ce que vous pensez dans votre tête, moi je le sais aussi, je le pense aussi,
Oui,
donc je vous le dis ouvertement.
oui, oui.
Donc c'était ça, c'était un petit peu, c'est comme si me venger de ces souffrances-là et les dire ouvertement. C'est ce qui faisait mal d'ailleurs dans un de mes livres, je disais que il faut le dire, hein, il faut le dire ce saratan, ce cancer, il faut le dire, il ne faut pas dire l'autre, hein, ou bien
Mard.
l'autre, hein,
Non.
d'aklamard. Donc je voulais dire, il faut lui donner un nom, c'est le cancer. Parce que quand on ne le dit pas, c'est encore pire quand on le dit. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis passée par ce processus de deuil et puis j'ai fait mon deuil aussi. Hein. J'ai pleuré, j'ai écrit, j'ai voyagé et puis j'ai discuté aussi avec des amis, avec mon mari. Et puis je dis heureusement que mon mari était là pour me soutenir parce que le moment où il était là à prendre soin des enfants, à m'accompagner, à voyager pour moi, pour amener le traitement, je voyais
Alors,
d'autres femmes qui étaient
pardon.
délaissées par leur mari.
Alors,
Pardon.
on va y aller petit à petit, justement.
Oui.
Quand tu dis j'ai fait le deuil, c'est tu as fait le deuil de la vie?
Moi, j'ai fait le deuil de tout. Hein. Moi, je crois que j'ai enterré une partie de moi, celle qui prenait pas soin de moi. Je faisais toujours passer les autres avant moi. Je faisais mon travail passer avant, mes étudiants avant, mais la famille avant, les aides avant, les gâteaux avant, les enfants avant. Donc,
Tout était
nous,
raison
les femmes.
d'avant.
Oui, donc, et je me suis dit non, stop, déjà maintenant c'est le moment de vivre. Il faut que je vive ma vie, que je prenne les rênes, que je laisse personne guider ma vie. Maintenant c'est à moi, heureusement. Et puis j'ai compris pourquoi moi. Peut-être aussi il y a du bon dans la maladie,
Oui,
donc
mais
peut-être que cette
alors
maladie.
Berija, tu vas trop vite pour moi et pour...
Pardon, pardon,
Pourquoi?
pardon, pardon.
J'ai envie qu'on vive avec toi chaque étape. Parce
D'accord,
qu'au début, on
d'accord.
t'annonce une maladie incurable et qui n'a pas de traitement. Et toi, tu viens d'avoir un bébé, tu as deux autres enfants et tu es mariée. Et tu fais face justement à cette nouvelle de dans 2, 3 ans, je ne suis plus là. OK?
Oui.
Heureusement, alors ça fait 24 ans que ça s'est passé, n'est-ce pas? Alhamdoulilah,
Oui.
tu es toujours
Alhamdoulilah.
là
Alors,
et on en parle.
toujours.
Alors, justement, quand tu dis, j'ai fait, parce que, en fait, quand tu dis, j'ai fait le deuil, j'ai commencé à m'occuper de moi, etc., c'est comme s'il y a eu un espoir. À quel moment il y a eu l'espoir du traitement, alors qu'au début, on t'avait dit, il n'y a rien?
Oui, alors certainement l'espoir est venu parce que j'ai fait des recherches. Hein. Il fallait dire que moi j'habite à Marrakech et puis mon médecin traitant était à Casablanca et toutes les procédures administratives à Rabat. Puis on était en train de chercher parce qu'il y avait un traitement miraculeux à l'époque qui venait de sortir et c'est une innovation dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique à l'époque. C'était un traitement anti c'est-à-dire thérapie ciblée, une thérapie ciblée. Donc il fallait, mais il n'est pas disponible au Maroc. Donc j'ai essayé de discuter avec la CNOPS, etc. Donc ça m'a pris 4 mois pour voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Donc, c'était, il y a une possibilité de la ramener de l'Espagne. Quand j'ai ramené cette boîte, c'était là mon espoir à moi. C'était pas seulement une boîte, c'était une vie. C'était un espoir, c'était une renaissance, parce que, voilà, j'ai réussi à sauver Béhija. Donc, quand j'ai ramené cette boîte, j'étais toute fière, je ne voulais pas la cacher, je ne voulais pas la mettre dans mon sac, dire que voilà, j'ai réussi ou personne n'a réussi. Voilà, j'étais la première à faire entrer ce traitement au Maroc. Et quand j'atterris à la salle d'attente et je regarde d'autres personnes n'ayant pas la même boîte, alors cette boîte qui était source de fierté, de bonheur pour moi, d'espoir, etc., est devenue source de culpabilité.
Oui.
Et je me suis dit, pourquoi moi? Moi, je comprends maintenant pourquoi moi. Donc, Dieu a voulu m'utiliser, a voulu que je dépensais 4 jours, 1400 kilomètres ou bien plus pour avoir cette boîte, pour comprendre le pourquoi des choses. Parfois, on vit une souffrance et on ne comprend pas le pourquoi. Et Dieu fait bien les choses. Et là, j'ai compris qu'il n'y a pas quelque chose qui vient comme ça par hasard. Dieu sait que nous avons des compétences, nous avons des capacités, nous avons des choses à donner. Il fallait les chercher peut-être au milieu des douleurs, au milieu de la maladie, au milieu du cancer.
Et à ce moment-là, c'est là où tu t'es dit, je n'ai pas juste sauvé Béhija, j'ai sauvé Béhija, je dois prendre soin d'elle, mais je dois aussi comprendre pour les autres.
Oui, exactement. Je me suis dit, voilà, c'est mon rôle. Cette prise de conscience m'a permis de revoir mon rôle en tant qu'humain et poser les questions existentielles. Il faut que ces gens-là aient leur traitement. Il faut que le patient atteint de cancer soit traité dans la dignité, que le traitement soit accessible au Maroc et que quelqu'un l'aide. Forcément, ce patient n'est pas instruit ou bien n'a pas les moyens ou bien vit dans le rural, etc. Donc, il devrait y avoir quelqu'un ou bien une structure pour l'aider, parce qu'il n'y avait pas de structure de soins à l'époque, de soutien à l'époque, et même d'ailleurs, même de soins. Moi, ce qui me faisait beaucoup de peine, c'est que ce n'est pas le cancer qui est primordial, c'était les autres cancers autour du cancer. C'était la centralisation des soins, c'était les déplacements, c'était les voyages, c'était comment justifier les absences pour le travail, c'était le regard des autres, les maladresses qu'on disait. Moi, on m'a dit, tu as de la chance, ton mari ne t'a pas abandonné. C'est comme si la règle, il doit m'abandonner quand j'ai un cancer. Quand on se marie, normalement, c'est dans le bien et le pire. Donc, des choses. Donc, quand on ressent ça, quand on reçoit ces mots-là qui blessent vraiment profondément, donc, je me suis dit, là, nous avons un rôle à faire. Nous, en tant que patients, on doit apprendre à gérer ça, on doit apprendre à aider les gens, on doit faire du plaidoyer, on doit éduquer, on doit sensibiliser, on doit faire de la prévention, parce que c'est possible, parce que qui mieux que placé que nous pour faire la chose. Donc pour
quand,
faire
quand cette, tu dis nous, c'est les patients.
Quand je dis patient, oui, et là je désigne patient ou partenaire, patient expert, ou bien ce qu'on appelle cancer advocate, ou bien c'est quelqu'un qui fait du plaidoyer, qui essaie de redresser, c'est-à-dire les choses en faveur des patients atteints de cancer, pour justement préserver leur, dignité humaine, et bien sûr leur permettre d'être traités bien, et qu'ils vivent, avoir une qualité de vie meilleure.
Ok, alors pardon, en 2002, est-ce que le programme de patients partenaires existait déjà? Non.
Non. Déjà au Maroc, c'est-à-dire dans les médias, etc., on m'a posé une question, est-ce qu'on découvre ton visage ou bien le cache? Et ça, moi, j'ai trouvé qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de cancer 2002. C'était très dur de parler du cancer parce que le cancer était lié à la mort, à la souffrance, à la faim, quoi. Il n'y avait pas de traitement disponible, il n'y avait pas de cette avancée thérapeutique pour les traitements. Maintenant, heureusement, il y a des patients comme moi qui vivent plus de 24 ans, qui sont capables de changer des choses, qui demandaient des associations, des projets, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas ceci. Système qui est capable, c'est-à-dire de ressentir le besoin de patient. Donc, on faisait les soins pour le patient, mais pas avec le patient, ou bien en l'intégrant dans l'approche qui doit être centrée sur le patient.
Alors, Lala Béhija, il y a 15 ans, tu as lancé l'association ML.
Oui. Alors, exactement. Donc, hier, c'était l'anniversaire le 15e anniversaire de l'association ML, qui est l'association des malades atteints de leucémie et maladies similaires. Et c'est une association nationale qui prend en charge tous les patients atteints de leucémie au Maroc. Donc, ça m'a pris quand même, c'est-à-dire depuis 2002 jusqu'à 2011, ça m'a pris quand même 9 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 9 ans-là? C'est-à-dire, je me suis dit, pour faire monter un projet, je voulais pas faire un copier-coller. Je veux faire quelque chose, un modèle bien qui répond, c'est-à-dire parfaitement aux besoins de patients. Donc, il fallait que je m'entraîne, il fallait que je me forme. C'est pour ça que j'ai intégré des associations au Maroc, en France. Et j'ai vu des modèles, et puis je me suis dit, il faut les adapter, hein. Je ne veux pas, par exemple, cette pratique dans cette association, je veux l'améliorer, bien je veux adapter cette pratique, elle est très bonne dans cette association, je vais c'est-à-dire l'adopter, etc. Donc, il m'a fallu faire c'est-à-dire assister à des congrès, et aussi, c'est-à-dire 6 mois après mon diagnostic, j'ai assisté au premier congrès qui était l'ESMO, qui était un patient seminar, et c'est mon médecin traitant que je remercie profondément, professeur Asma Aksar, qui m'a recommandé d'assister. Je me suis dit, moi je suis patiente et j'assiste, c'est quoi ça? Moi je ne suis qu'une patiente au début,
Ouais.
mais quand j'ai assisté et j'ai vu la qualité des échanges et les associations de patients, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Et je vous dis, en 2002, c'était novembre 2002. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, toujours la question, pourquoi moi? Voilà, pourquoi pas moi?
Oui.
Donc
Wow.
Il faut que je participe, il faut que je fasse quelque chose pour ma communauté, pour mon pays. Et là, quand j'ai voyagé, c'était un voyage aussi à l'intérieur de moi. Je me suis posé tellement de questions dans l'avion de retour. Mais il faut que je fasse ça, mais d'abord il faut que j'apprenne. Tout le monde parle en anglais, je dois aussi améliorer mon anglais. Je dois aussi revoir comment je peux aider. C'était dur au début parce que les personnes qui étaient atteintes de cancer ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient atteints de cancer.
Oui.
Peur qu'ils quittent le mari, le travail, etc. Les voisins qu'ils sachent, etc. C'était comme une honte, quoi. C'était pas une maladie. Donc, j'ai dit, voilà, mon rôle maintenant, c'est d'apprendre comment faire véhiculer le message, comment sensibiliser les populations, comment atteindre le rural,
Et
comment
comment tu as fait?
expliquer à un Marocain.
Comment tu as fait
Donc,
en fait dans un moment où avec tous les tabous, la honte, le manque de moyens, le manque de communication, les réseaux sociaux qui n'existaient pas, on revient en 2002, toutes ces choses-là, comment tu as fait Lella Behija?
c'était pénible, c'était le téléphone, mais c'était aussi cette volonté à faire changer les choses. C'est vrai que j'étais une jeune maman, mes enfants étaient encore petits et ils avaient besoin de moi. J'enseignais, je devais prendre soin d'eux, mais à côté, il y avait les emails, il y avait le téléphone, il y avait à chaque fois, je rencontre des patients, je leur donne mon téléphone dans les salles d'attente, dans les consultations, je donne mon téléphone aux médecins, c'est-à-dire, et je leur demande de le donner aux patients qui sont nouvellement diagnostiqué, comme ça au moins j'aurai quelqu'un, ils vont avoir quelqu'un avec qui parler. C'était un besoin, c'était mon besoin que j'ai voulu quand même satisfaire pour les autres, hein, et raccourcir le chemin pour les autres, pour qu'ils passent pas par les mêmes, leur montrer un petit peu les procédures administratives, les laboratoires, les proches, etc. Tout ça, j'ai fait ça comme ça, c'est-à-dire d'une façon spontanée, d'une façon, c'était difficile, oui, mais j'ai réussi quand même à avoir ce groupe, ce qu'on appelle des points focaux dans chaque ville, des balades, etc., qui étaient là, qui étaient prêts à aider, etc., à donner de leur temps, de leur énergie, etc. Et puis, ces 9 ans aussi, j'ai commencé à écrire, à mûrir aussi, parce que, c'est-à-dire, parfois on prend des claques, parfois des rejets, parfois des refus, parfois des personnes qui ne veulent pas adhérer, qui ne veulent pas vous aider, etc. Mais ça m'a permis, à arriver à un point que l'association, on doit avoir une structure, on doit avoir un cadre légal pour faire des activités. Je ne peux pas, en tant que Berija, par exemple, partir dans un hôpital et faire une démarche, ou bien je dois avoir ce cadre légal. Donc, moi, j'ai estimé que pendant 9 ans, j'ai fait le nécessaire pour monter l'association. Et heureusement, nous avons monté l'association. Au début, pour parler du cancer, et je reviens à votre question, qui est comment on parle du cancer à l'époque. Quand je faisais, par exemple, une séance, ou bien ce qu'on appelle école sans cancer, je ne parlais pas de cancer, je parlais de la santé. et que les jeunes, il faut manger sainement, il faut faire du sport, il faut éviter le tabac, il faut pas fumer parce que la première cigarette, malheureusement, elle est fumée dans le primaire. Donc, je parlais de la santé pour ne pas toucher directement le cancer qui dérange, qui fait peur, on doit le reconnaître. Donc, tout ça, c'était des étapes qui vont m'aider à grimper cette échelle pour arriver à bien sûr, j'ai entendu parler de beaucoup de diplômes, etc. J'ai essayé d'intégrer un diplôme en psycho-oncologie en France. C'était pas facile parce qu'on m'a demandé que je dois avoir un background médical, c'est-à-dire je dois être infirmière ou bien aide-soignante ou bien médecin, etc. Pour pouvoir le suivre. Mais quand j'ai entendu en 2009 qu'il y a donc professeur Catherine Tourette-Turgis qui a lancé l'Université des patients en France, je me suis dit voilà, ça c'est ce que je veux, ça ce que c'est-à-dire c'est une bonne démarche initiée par la Sorbonne, mais peut-être un jour on l'aura au Maroc et je dois quand même remercier Madame Latifa Chérif qui a initié ça parce qu'elle était la première patiente partenaire qui a fait ça à la Sorbonne et qui a un petit peu cru à ce projet et qui a monté avec des médecins un comité pédagogique, le DU, le diplôme universitaire patient partenaire en cancérologie pour la première fois en 2021. Donc, comme je vous ai dit, tout est venu en même temps, subhanallah, c'est-à-dire il fallait laisser le temps au temps pour pouvoir construire tout ça, d'abord amener le traitement, pouvoir, c'est-à-dire avoir des équipes, des patients et des points focaux dans toutes les villes, après apprendre, assister à des congrès et monter l'association, et bien sûr avoir ce diplôme pour armer les patients, parce que ce diplôme, il est très important, parce qu'il va permettre aux patients d'avoir les connaissances qu'il faut, parce que c'est un diplôme. Maintenant, même le profil sanitaire de la population, il a évolué, vous l'avez dit. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, beaucoup des thérapies ciblées, etc. Et il faut maintenant démocratiser les soins.
Rapidement, en quelques mots, Lella Behija, qu'est-ce que cette expérience, cette épreuve, t'a appris sur toi-même?
Alors, tout simplement, l'expérience que j'ai vécue m'a appris que je peux me dépasser, on peut se dépasser. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais cru que je vais monter une association, que je vais construire une maison pour héberger les gens qui viennent de loin à Marrakech et qui est un projet 100% de la société civile. Je ne croyais pas que j'allais écrire. J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans, puis j'ai arrêté quand je me suis mariée, comme quoi la femme, elle se contente du mariage et des enfants, de famille. Elle oublie ses rêves personnels. C'est-à-dire, voilà, le cancer m'a transformée, m'a permis de vivre autrement, de vivre pleinement, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Et je recommande ça à toutes les femmes atteintes de cancer, de tenir bon, de croire en elles-mêmes et que c'est d'Arbi Kbir.
Merci infiniment, Lella Behija. Merci
Merci.
beaucoup d'avoir été ma
Merci,
femme
Lella.
d'aujourd'hui. C'est un plaisir
À
d'échanger
vous.
avec toi et au plaisir de te retrouver, Inch'Allah, une prochaine fois dans un autre contexte. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.